m'en repentir. J'ai rien fait de mal dans ma vie. Et si j'ai fauté sur le parcours, c'est pour les gueux, y'a qu'une folie. Et qu'un bonheur, la joie d'amour. Moi j'aimais ça, je disais aux hommes qui me comptaient leur boniment. C'est pas la peine de dire à Rome, si tu veux du plaisir, prends-en. Ils en avaient tous l'habitude, ils arrivaient chacun leur tour, en disant bonsoir la Gertrude, si tu m'en joues à faire l'amour. Je répondais bien mauvaise graine, j'aime bien savoir le monde heureux. Et celui qui traîne toute la semaine a bien le droit d'être amoureux. Après tout, chacun sur la terre n'est-il pas marqué par ses jours? Toi qui étais une fille de misère, j'avais dans le cœur le don d'amour. Quand je pense aux baisers que sans trêve j'ai semé dans les creux de rochers, je peux pas croire à ce mauvais rêve que l'amour était un péché. Et la fille pousse s'est endormi sans se repentir.
Cause commune,
chers auditeurs,
partage ta radio.
Courez aller voir Hélène, Trésor transnational, un documentaire réalisé par Judith Habitbol à l'avant-première de Hélène Trésor transnational ou MK de Beaubourg, organisé par le festival Chéri Chéri qui avait déjà programmé le film l'année passée en novembre. Il y a donc eu un débat ou simplement des interventions notamment de Giovanna Rincon, d'Accept Testé, de Sam Boursier, des archives LGBTQI+, de Paris, de Yasmine, du collectif Représente Trans, qui a organisé cet événement, et d'autres personnes que vous allez maintenant entendre, pour justement faire les liens avec la situation actuelle et les liens avec les luttes et les urgences politiques, là, les droits que les personnes trans revendiquent. Et qui mérite absolument que toute personne puisse voir ce documentaire pour comprendre et pour ressentir tout ce que peut transmettre de façon si sensible et si poétique Hélène Azéra.
Cause commune,
la voix des possibles.
Courez, courez, allez voir le film Hélène, Trésor transnational. C'est un documentaire avec, pour, par, d'Hélène Azéra, qui retrace les vies, la vie d'Hélène. C'est un film un peu compostiste. Il y a plein d'entrées possibles, plein de couches. Et il va vous requinquer. Et ce film, il va vous rappeler ou vous apprendre même l'histoire de beaucoup de luttes, l'histoire d'un combat permanent et qui nous concerne absolument tous. Je vous le recommande. Il faut y aller maintenant pour qu'il puisse rester en salle et que beaucoup d'autres que nous puissions en profiter et surtout faire les liens avec les revendications actuelles que soutiennent les personnes trans et notamment ces associations, l'importance des archives et l'importance de pouvoir témoigner et donner du sens dans une période où beaucoup de choses sont en régression et beaucoup de transphobie et beaucoup de récupération. Je pensais absolument important de vous faire écouter ces différentes interventions et surtout de vous inviter, encore une fois, à aller voir ce film rapidement. Il est en salle, mais aussi, et c'est pour ça que je vais ponctuer l'émission de quelques chansons, vieilles chansons de Damia ou de Marianne Oswald ou d'autres encore. Parce que, en fait, Hélène, après avoir été mademoiselle H.H. Alibé, journaliste, a fait une émission qui s'appelle Chanson Boum pendant plusieurs années sur France Culture.
As-tu dans tes cartons une bonne chanson pour cet enfant?
Une chanson? Pourquoi faire?
Pour la chanter.
Boum! De ces chansons originales qu'on a déjà l'impression d'avoir entendu quelque part et qu'on retient tout de suite parce qu'on s'en souvient aussitôt.
Boum! 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 Boum!
Boum! Boum! Boum!
Chanson Boom, le magazine de la chanson de France Culture.
Boom, boom, boom,
un divertissement boom. Proposé par Hélène Azéra.
Boom.
Boom, boom.
Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, amis de la chanson, bonsoir.
Vous pouvez aller maintenant sur le site de France Culture écouter quelques 541 podcasts. Je crois que c'est le chiffre. Et ils sont tous super, ils sont tous passionnants. Je vous invite à aller écouter. C'est un journal, nous dit Hélène, qui d'ailleurs lui a valu d'être récompensée pour l'ensemble de son œuvre, où elle nous fait découvrir donc la chanson française, la chanson du monde, la chanson anticommercial, et elle invitait des chanteurs, des chanteuses, des instrumentistes, des compositeuristes à venir se produire dans le studio de Radio France. Et en fait, c'est à chaque fois, elle le dit elle-même, les émissions ponctuent comme ça ses obsessions, ses émotions, ce qu'elle traversait à ce moment-là, qui elle rencontrait. Et c'est toujours plein de vitalité, plein de liberté. Et vraiment, aller écouter ça, c'est génial, ou aller réécouter. Ben voilà, je la remercie beaucoup. J'espère qu'elle viendra bientôt ici, comme c'est prévu, dans le studio de Cause Commune, pour continuer et dialoguer avec elle davantage encore. Merci Hélène, l'émouvante, comme tu aimes te faire appeler en souvenir de Jean Genet. Merci Hélène Azéra, Azéra, la fleur du désert.
Je crois qu'on peut être plus humble quand on vous a reconnu vos qualités.
Est-ce que tu es humble alors?
Non, mais j'ai un besoin de reconnaissance fou qui me fait faire n'importe quoi des fois. Leur rêve, c'était d'écrire à Libération. Et c'est moi qui ai écrit dans Libération.
Je trouvais qu'elle était intense, Hélène, pour détruire toutes nos convenances.
Judith!
Hélène!
Quel bonheur!
Pourquoi Godard t'a voulu, toi, dans Sauf qui peut la vie?
Parce que quand il y a des putes, il y a des traves et des trans. Elle fréquentait la rue Pigalle, elle sentait le vice à bon marché.
Une fille qui avait fait le tapin et qui avait lu les situationnistes, ça court pas les rues.
Par exemple, le vieux château Toto, cerné de corbeaux,
ah oui.
Bobos, c'est de vous.
Je connais tout.
Chanson Boom, le magazine de la chanson de France Culture.
Elle a été exceptionnelle.
Qui carotte sur le genre sans humour, un cadavre dans la bouche.
La liberté, c'est un combat de tous et c'est un combat permanent.
Quand elle est séropositive, il y a des moments où demander l'amour. Les regards de commisération des gens, on a envie de leur défoncer la gueule.
Je n'étais jamais resté sans voir. Ni autrefois, ni maintenant.
Je précise en fait que cette avant-première, elle est en partenariat avec Chéri Chéri, mais aussi en partenariat avec l'association Acceptes T, représentée par Giovanna Ricone.
Et voilà.
ainsi que l'association Représente Trans, représentée par Jasmine, qui est également présente dans la salle. Et donc, toutes les deux seront là à l'issue de la projection pour une table ronde, ainsi que Sam Boursier, que vous pouvez participer. De la chanson francophone, une militante exubérante, une voix inimitable aussi, qui a officié pendant plus de 17 ans sur les ondes de France Culture, l'une des grandes figures des mouvements révolutionnaires gays et trans depuis les années 70, le phare, les gasolines, à top aussi, et puis aussi une personnalité très forte, originale, une femme généreuse, alias Hélène Azéra. Donc, tous vos applaudissements. Donc, Jasmine, du coup, de Représente Trans, et Giovanna, Sam Boursier. L'idée, c'est que ça soit le plus fluide et interactif possible. Donc, n'hésitez pas à donner vos ressentis, à poser des questions à tout le monde, pas seulement à Hélène ou à Julie.
Alors moi j'ai une petite question, à quel moment tu t'es senti assez en confiance pour pouvoir justement parler de ta séropositivité?
J'ai attendu que ma mère soit morte pour pouvoir en parler publiquement, parce que je ne voulais pas avoir une discussion avec ma mère là-dessus. Mais autrement, je ne me cachais pas pour prendre mes médicaments, c'était une chose. J'aurais jamais pu me cacher pour prendre mes médicaments. Là, j'ai commencé par ça. Et puis, ACT UP m'a beaucoup aidé à pouvoir parler de ma séropositivité. C'était une manière de communiquer, de ne plus être dans la plainte, d'être dans la revendication. Voilà.
Une première question pour Judith. C'est un documentaire très intimiste, qui est une amitié de longue date, par beaucoup de tendresse, de bienveillance. Est-ce que tu pourrais revenir sur comment est né dans ce désir, là, au long cours, et à quelles difficultés tu t'es rencontré, tu as rencontré les débats?
Alors je vais essayer de faire bref, parce que c'est très très long ce que tu demandes. J'ai côtoyé Hélène 987 en fait par des amis qui travaillaient à l'idée, je l'avais rencontrée comme ça, et ensuite à une soirée chez l'une d'entre elles où Hélène avait chanté des chansons grivoises, peut-être du 13e, du 14e ou du 16e siècle. Allez savoir, en tout cas elle nous a scotché évidemment. Et j'étais, je savais qui c'était déjà, j'étais très très admirative, et puis on se croisait beaucoup dans des manifs, elle était avec Max Capelgris qui est quelque part, et puis vraiment on a commencé à se voir plus fréquemment autour d'une amie syro-libanaise, Shirin Abouchakra. Et je n'arrêtais pas de dire à Shirin, mais il faut faire un film sur Hélène. Voilà. Et Shirin m'a encouragée et j'ai décidé de me lancer là-dedans. Et on a commencé en 2016. Mais pour vraiment aller très vite, de 2016 à aujourd'hui, il y a eu à la fois le confinement, qui a été un arrêt brutal et total pour absolument tout le monde. Et il y a eu aussi de nombreuses hospitalisations d'Hélène. Donc j'essayais de me rendre disponible à elle, quand elle le pouvait, elle, et quand elle s'en sentait, elle. Ce qui donne aussi ce côté très perturbé au film. Voilà.
Y a-t-il une première question pour Angélique ?
Shirin, c'est la femme dont je parle. Elle était arabophone, puisque syro-libanaise. Et elle s'est engagée à Médecins du Monde pour aller sur les bateaux qui essayaient de recueillir les gens qui essayaient de passer la Méditerranée et qui, hélas, très souvent échouaient et finissaient au fond de l'eau. et parce qu'elle était arabophone, les candidats au naufrage arabophone, j'ai passé sur ce bateau. C'est elle dont je parle un moment dans le film.
Et j'avais une autre question aussi pour Judith qui concerne le montage du film, qui j'imagine a dû être extrêmement compliqué avec un nombre d'heures de rush considérable. C'est vraiment un film très foisonnant, très composite.
Non.
C'est-à-dire ?
Eh ben non, justement le problème a été là. C'est que pour démarrer, Hélène m'a demandé de ne pas filmer son visage. Et je n'ai, et comme je suis parfois très très lente, je n'ai pas percuté sur le fait que, mais tout le monde la filme tout le temps. Mais à moi, elle m'a dit oui, je veux bien faire un film avec toi, mais tu ne filmes pas mon visage. Et j'ai fait une erreur fondamentale en soi et en tant que cinéaste, qui était d'accepter, parce que j'aurais pu filmer son visage, faire des beaux cadres à chaque fois. Donc j'ai perdu des heures de rush d'image parce que j'ai obéi. Tu vois ? Comme quoi, hein ? Attends une seconde, attends une seconde. Et donc, j'ai ensuite, elle me dit au bout d'une année, elle me dit, oh, mais tu sais, tu peux filmer mon visage, évidemment. Donc là, j'ai cru mourir. Et bon, et à part ça, donc je n'avais pas tant de rush utile à utiliser. J'ai fait un premier montage qui était une catastrophe absolue parce que j'ai voulu couvrir cette histoire d'image, et ben je l'ai recouverte de choses complètement idiotes, de graphismes et de choses comme ça. J'ai arrêté, j'ai laissé poser, j'ai dit à ma monteuse qui est absolument vraiment qui est extraordinaire, qui s'appelle Cyrielle Tello, je lui ai dit il faut qu'on reprenne tout. Alors la productrice qui ne produit pas, qui est Paola Valentini, m'a dit mais comment on va faire, parce que ça demande de l'argent à chaque fois. Donc j'ai lancé un financement participatif, ce qui pour moi était tragique. Et on a repris un film, en tout cas, qui correspondait mieux à ce que je souhaitais. En tout cas, qui n'était pas masqué. Voilà. Donc c'est cette dernière version, la version précédente qui a existé. Je l'ai même montré, cette version que je détestais. Mais cette version, je de toute façon, j'aime Hélène, donc il faut que j'aime le film. Mais voilà, donc c'est maintenant cette version-là.
Hélène ?
Oui, le truc de pas montrer mon visage, c'est d'abord parce que le fait de ne pas montrer mon visage, c'est d'abord parce que j'assumais mal le fait que mon visage soit défiguré par le sida, puisque j'ai eu ce qu'on appelle l'hypodystrophie. J'ai perdu les graisses de mon visage. Et l'opération de comblement qu'on m'a fait à l'hôpital avait raté. Et donc j'ai des chics sur le visage. Donc c'était un peu une appréhension de ce que les gens vont penser. Et puis finalement, elle a gagné ma confiance en acceptant de filmer son visage. Et c'est pour ça qu'après j'ai dit on peut filmer mon visage.
Soit.
Cause commune, la voix des possibles.
Alors, moi je me permets d'introduire un peu déjà, juste pour dire à quel point je suis ému. C'est la deuxième fois que je vois le film, et donc voilà, c'est fort. Juste évidemment, répéter à Hélène à quel point j'ai une affection forte et, pour elle, et à quel point je remercie Hélène d'avoir accepté de s'adonner, s'est prêté un visage totalement humain, découvert, pour nous laisser encore une fois des archives. Tu le disais toi-même que tu ne pourras pas faire tes mémoires, que ce film, en grande partie, va contribuer à construire ces archives-là, qui sont pour nous vraiment un trésor. Un trésor qui n'est pas que national, c'est un trésor vraiment universel. Et donc, voilà, ça, pour te dire l'importance des archives, comment tu nous rappelles derrière tout ça, que les archives de toute la communauté, elles sont fondamentaux aujourd'hui. Aussi, que tu nous rappelles dans le film à quel point bah, c'est important de continuer à rigoler, même quand il y a la catastrophe, quand il y a le meurtre des personnes trans qui est derrière, qui peut être vraiment totalement incohérent de l'imaginer, mais que ça a du sens, et c'est ça qui nous permet à la communauté trans, c'est ça qui permet à cette testée aujourd'hui d'exister, de faire avancer les choses, parce qu'on garde le moral, parce qu'on garde la résistance, et parce que bah, derrière tout ça, on garde un esprit de joie de vivre, et c'est ça que tu disais aussi dans le film. Et tu nous rappelles aussi dans le film à quel point il faut qu'on continue à transgresser pour progresser, pour faire avancer. Et que c'est, encore une fois, l'unique moyen qu'on a transgressé pour rappeler que nous existons et que la visibilité trans telle d'aujourd'hui, 31 mars, elle ne se fera pas sans qu'on continue à transgresser. Et ça, tu es vraiment le modèle parfait de cette transgression que nous devons prendre comme un modèle parfait et qu'on continuera à le porter, ce modèle, tant qu'on pourra, avec une multiplicité de la communauté qui est énorme, qui est vraiment fière et visible aujourd'hui. C'est important aussi que dans le film tu nous rappelles à quel point parler de ce qui est politiquement correct, bah voilà, ça peut être gênant, mais que parler du travail du sexe auparavant et aujourd'hui, c'est encore un sujet, et que toi tu n'as jamais caché ça, et que nous on doit pas forcément dire qu'on est fier que le travail du sexe c'est soit en réalité dans la communauté trans, mais on a une histoire et Hélène elle la raconte. Et les politiques, et derrière tout ça, bah, c'est un rappel à que les nouvelles générations des personnes trans, cette jeunesse qui est ici présente dans cette salle, c'est un rappel qu'il ne faut pas avoir la honte que sa communauté, des fois, soit obligée d'exercer le travail du sexe. Tu nous le rappelles encore une fois dans le film, et merci. Parce que la question du sida aussi, c'est quand même un truc qui est encore d'actualité. Accepter, c'est aujourd'hui, on continue à recevoir des personnes trans qui ont aujourd'hui 20 ans et qui viennent de découvrir qu'elles sont séropositives. Ça veut dire qu'il y a 40 ans, 30 ans, aujourd'hui, on est au même point pour la communauté trans. Peut-être pas une épidémie totalement forte dans la communauté, mais qui existe encore. La contamination dans la communauté trans et autres existent. Donc voilà. Ce sont des sujets qui sont très présents dans toute cette histoire que tu nous racontes. Et encore une fois, ben, je pense que c'est obligé pour nous, en tant que communauté, qui, entre guillemets, hein, je me permets parce que tu es encore là, tu es forte et vivante, et tu es combative, mais pour nous de te promettre que nous continuerons la lutte, et que toutes les personnes qui sont ici, elles sont dans la lutte. Et que nous, à CPTST, on fait avancer beaucoup de choses, et un projet que tu disais, une chose qui nous intéresse, c'est des projets de recherche sur l'impact de l'épidémie du sida, et ça, on l'aboutit. On a aujourd'hui un projet trans-DIH qui a donné ses résultats, une vraie enquête nationale, et tout ça, c'est aussi quelque chose qui, toi, tu nous as montré, que tu nous as dit qu'il fallait faire et qu'on a fait, et on continuera à faire beaucoup de choses, encore une fois, pour honorer tes archives, ta mémoire et ta personne. Hélène, merci.
Elle était toute ma pensée. J'ai pas de papier, madame. Parce que d'abord, je voudrais remercier Judith parce que c'est un film en forme de portrait de l'aide d'amour. Enfin, c'est toi qui le dis dans le film. Je dis pas ça pour te faire plaisir. Et dans le film, à un moment donné, tout le monde dit « Hélène, on t'aime ». Je pense qu'on peut lui dire ce soir « Hélène,
on t'aime ! » !»«
Hélène, on t'aime !» Et bienvenue à la maison, Hélène. Parce que maintenant, il va y avoir une maison pour les archives. On pourra en reparler à la mutinerie. Enfin, 640 mètres carrés, rue de Lourques, on va pouvoir avoir un endroit où les archives communautaires sont là, traitées collectivement pour tous. Donc bienvenue à la maison des archives de tout le monde, de la maison de la communauté, etc. On n'aurait jamais cru qu'on aurait dû combattre les gens qu'on a combattus pour y arriver. Je ne reviendrai pas sur les épisodes de la lutte, mais ça y est, pour 6 ans, on y est, on a le bail, 200 000 balles. Chaque année, on a un bail de 92... Bah non, je me trompe, on a un bail de 6 ans. La semaine prochaine, on va obtenir le bail de 99 ans.
Bravo.
Le bail en fuite des outils.
Ça, c'est fabuleux.
Voilà. Bon, je pourrais dire énormément de choses. Je voudrais dire que dans le film, maman, tu dis quelque chose qui nous a porté pendant qu'on avait ces difficultés et pour ouvrir ce centre. Et on a fait quelque chose qui ne se faisait pas en France. C'était l'archive orale. Et donc, dans le film, maman, tu parles de... Quand tu fais les émissions à France Culture, puis tu dis... Enfin, chanson boum. Et tu dis, bah, il faut inviter des gens, mais je veux aussi faire venir des gens qui vont produire. Et tu dis que c'est une archive. C'est la clé des archives minoritaires. Nous, on sait très bien que les archives, pour des tas de raisons, et je ne vais pas m'attarder là-dessus ce soir, on doit les produire. On peut les produire. Elles sont jamais naturelles, elles sont jamais neutres. Et en France, on ne faisait jamais d'archives orales, ce qui nous a fait tenir, et il y a ici des membres du collectif, que je remercie, les bénévoles, on a produit l'archive. Et le premier recueil d'archives qu'on a fait, c'était les archives TDS payées par l'État, par la DILCRA. Donc tu as été interviewée beaucoup moins bien que dans le film. Mais vraiment, c'est important de comprendre ça, parce que des fois on dit, mais vous voyez de l'archive partout, on n'y comprend plus rien, les podcasts c'est des archives. Oui, parce que là, Christine, qui archive depuis des années, on produit l'archive ensemble. C'est nous qui dessinons les contours de l'archive. Oui, il y a des trous dans les archives, il y en a encore plus chez nous, etc. Et notamment pour les TDS, comme le rappelait Giovanna. Mais faut pas s'arrêter là, on les produit. Et on est à un moment de l'histoire bien particulier. Les années 70 pour le mouvement gay, bon, dans le centre d'archives, on s'est rendu compte qu'on allait toujours les vieux et qu'on allait les emmerder. Les vieux, les vieilles, moi je dis les vieux, les vieilles, on peut dire les seniors si vous voulez. Donc on disait oui, il faut lutter contre ça, il faut interviewer les jeunes, ils ont des choses à dire aussi, c'est tout à fait vrai. Mais hier encore, on discutait au centre, parce que j'étais en train de relire tout l'identitaire que nous a donné Natacha Torresson, qui est l'arme vue de l'ASB du mouvement des années 90. Et là, on s'est dit, les années 70, le mouvement gay, c'est pas un hasard, c'est les archives qui sortent, la première génération de centres d'archives, bon, plutôt gay, blanc, cis et tout, dans les années 70-80, il y a comme un arc de personnes, oui, c'est vrai, qui ne vont pas rester là encore éternellement. Et puis, pour les luttes trans en France, c'est les années 90. Donc on est dans un moment où on peut aller voir tout le monde. Toi, on va un peu te ficher la paix parce que tout le monde va te voir. Mais voilà, donc vraiment, je ne peux pas vous dire à la fois comment ce film sur Hélène, avec Hélène, par Hélène et pour Hélène, et puis pour tout le monde, est un moment vraiment très important. Et merci pour ça.
Comme tu l'as très bien dit, il y a Christine Rougemont là qui est en train de filmer. Elle est infatigable, elle filme depuis des années, elle m'a filé plein de rushs. Elle a été absolument généreuse et c'est quelqu'un d'important.
Déjà, j'aimerais dire que je suis particulièrement touchée et honorée d'être là ce soir et de me tenir à côté de vous. Comme ce que je disais, Sam, je voulais aussi commencer par la lettre d'amour. Moi, je trouve que là, on a juste vu une déclaration d'amour pendant une heure et demie. Et je trouve le film, à cet égard, très tendre vis-à-vis de toi, vis-à-vis de nous. Et à travers ta petite histoire, s'écrit aussi la grande histoire de notre communauté. Je trouve que ce travail a été merveilleusement réalisé par Judith. On sent vraiment, la pureté de tes intentions à travers ce documentaire. Là où souvent le documentaire, et je le dis en ayant travaillé sur d'autres documentaires traitant de la transidentité, c'est parfois et même souvent le lieu où... souvent les personnes trans vont être caricaturées, bestialisées, c'est un peu le freak show moderne. Et on ne sent pas du tout de fétichisation, de voyeurisme, d'objectification. Tu es humanisé du début à la fin, c'est toi qui parles. Tu n'es pas uniquement l'objet passif derrière la caméra, mais tu es le sujet en action. Ça me fait penser aussi aux pancartes que tu tenais d'ACT UP, action égale vie. Et j'ai l'impression que tu as toujours été en mouvement. Et aussi par rapport à ce que tu disais dans le documentaire, au début, il y a une phrase qui m'a beaucoup touchée, que j'ai écrite. Tu dis « La tolérance est une façon de remuer la terre pour qu'il y ait des fleurs. Mmh. » Et
c'est pas de la tolérance, elle dit. Je lui dis « C'est ta tolérance que j'admire. » Et elle dit « C'est pas de la tolérance. » C'est une façon de remuer la terre pour qu'il y ait des fleurs. Et c'est ça qui est très beau.
D'accord. Parce que c'est vrai que sur la notion de tolérance, bon, on n'a pas besoin d'être toléré, on attend juste d'être respecté et que la dignité humaine soit reconnue et qu'on ait des droits. Mais merci pour toutes les graines que tu as plantées dans le cœur de toutes et tous ce soir. Je suis vraiment très très émue. Et... Je trouve aussi qu'à un moment de l'histoire, et tu le disais un petit peu Sam aussi, à un moment de la grande histoire aujourd'hui où les vécus trans sont effacés de toutes parts par l'international fasciste réactionnaire, et notamment aux États-Unis mais pas que outre-Atlantique, je trouve que c'est extrêmement précieux d'avoir cette petite germe ici, à Paris mais en France aussi, et dans le monde entier. Je trouve que c'est un film qui est extrêmement espérant dans des temps particulièrement ténébreux. Je trouve que c'est un beau symbole d'espoir. Et aussi ce que tu disais, ce que tu montrais, Judith, je sais pas si tu... peut-être que tu vas m'en parler après et m'expliquer peut-être quelles étaient tes intentions, mais je trouve que le fait que le film soit rythmé par beaucoup de... Je pense que c'est la Normandie parce que tu viens de Dieppe. Beaucoup de scènes très naturelles, tu vois, on entend le bruit de la mer, le bruit des oiseaux, des mouettes, le bruit des champs avec le vent. C'est tellement apaisant. Je trouve qu'il y a un peu ce côté hors du temps et en même temps, cette inscription dans la naturalité de l'être trans, c'est-à-dire dans le tout vivant, dans l'écosystème un petit peu. Et le tout existant, je trouve le film beau d'un point de vue esthétique, poétique, parce que tu parles aussi beaucoup de poésie et c'est très agréable de t'écouter. Vraiment, je trouve que c'est un film qui met à l'honneur la beauté avec un grand B, à travers ce que vous dites, ce que vous montrez, mais je pense que le plus beau est vraiment, n'est pas matériel et au-delà des formes et au-delà de la transition extérieure, tu vois. Et pour terminer, parce que tu disais aussi, à la fin, ce n'est pas la fin, mais le commencement. Je pense qu'il y a tellement encore d'autres choses qui nous attendent et tu as été une des pionnières. Et merci du fond du cœur pour ta force de vivre. Merci.
Nous sommes maîtres de la terre, nous nous croyons des presque dieux, et pan, le nez dans la poussière, qu'est-ce que nous sommes, des pouilleux. Et là-haut, les oiseaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent sur nous et crient au fou, au fou. Nous nageons tous dans la bêtise et l'on invente des drapeaux. On met des couleurs aux chemises, sous la chemise, il y a la peau. écrit au fou, écoutez le monde en folie, vive la mort, vive la faim, pas un ne crie, vive la vie, nous sommes tous des assassins. Et là-haut, les oiseaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent, tournent sur nous et crient au fou, c'est toute la terre qui gronde, bonne saison pour les volcans, on va faire sauter le monde, cramponnez-vous, tout fou le camp. Et là-haut, les corbeaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent comme des fous et crient à nous, la vie pourrait être si belle si l'on voulait vivre d'abord. Pourquoi se creuser la cervelle quand il y a du bon soleil dehors?
Cause commune, partage ta radio.
Une chose qui manque peut-être dans le film, c'est la situation actuelle. Parce que je suis un peu éloigné du monde et je ne sais pas quelles sont les revendications actuelles. J'aimerais bien savoir, toi et Giovanna, que vous parliez de vos revendications actuelles.
Là, je vais parler en tant que consultante chez Représentrance. Globalement, moi, quand je vois le film, c'est ce que j'aimerais en fait qu'aujourd'hui les cinéastes, les réalisateurs produisent et qu'ils mettent de l'argent par pour les personnes trans, et pas qu'on soit uniquement des objets de curiosité destinés à faire rire ou à attirer justement le regard un petit peu malsain, fétichisant des personnes cisgenres. On sent vraiment que c'est un film qui est fait par et pour et avec toi. Et ça, je trouve que ça change. Et comme revendication première, moi je dirais évidemment avoir une meilleure image des personnes trans, ça commence par là, mais c'est pas suffisant. Et je pense que Giovanna l'expliquera un peu plus après. Je pense que la visibilité sans sécurité, c'est que de la surveillance, c'est que de la vulnérabilisation et du contrôle de nos corps encore, de nos existences. Et je pense qu'il faut justement plus que juste de la visibilité, mais je pense que ça passe quand même par ça. Et en tant que jeune génération qui a grandi avec des personnes trans à l'écran à partir de, enfin, que j'ai découvert à mes 20 ans, tu vois. Moi, j'espère que les nouvelles générations plus jeunes vont pouvoir aussi s'identifier à des personnes trans heureuses, vivantes, pleines de vie comme toi, et qui ont la rage, tu vois, la colère et l'envie de changer, de refaire le monde. Et ça, c'est vraiment, encore une fois, ton agentivité, tu vois, face aux oppressions systémiques et aux monstres qu'est le fascisme. Je pense que c'est un des plus beaux cadeaux que tu pouvais nous offrir à travers ce merveilleux documentaire. Et moi, j'espère vraiment que les futures générations pourront grandir avec des personnes trans qui, en fait, sont des personnes du réel et pas des personnes fantasmées qui, tu vois, qui seraient le produit d'un imaginaire créé par et pour des personnes cisgenres, ce qui a été le cas dans toute l'histoire du cinéma depuis la création d'Hollywood, quoi. Donc merci pour ça et merci pour l'humanité que vous nous offrez avec beaucoup de fleurs aussi. Ça, je suis très touché par l'idée de germination, quoi. Ah, ouais. Ok, tu veux compléter un petit peu?
Et les revendications, on va dire, que ne sont pas toutes au point mort au moment où tu as arrêté il y a 10 ans, on va dire, où tu as ralenti, mais on est toujours dans la demande de la revendication du changement d'état civil libre, déclaratif et gratuit, déjudicialisé. C'est-à-dire que les 430 ne soient pas obligés de passer par un juge pour obtenir le changement d'état civil, première chose. La régularisation de toutes les sans-papiers, l'arrêt des OQTF, les services d'expulsion des personnes séropositives, on est toujours là. L'amélioration des conditions de vie des personnes trans encarcérées, hein, qu'elles sont placées par rapport au genre autodéterminé, pas par rapport à l'état civil. On est aujourd'hui aussi face à une vague transphobe contre les droits des mineurs trans en France. Et donc, on a besoin de clarifier beaucoup de choses à niveau institutionnel et aussi auprès des autres alliés et partenaires, comme par exemple Encado, à qui ce soir je vais lui adresser un message. Alors, Encado a toujours soutenu le cinéma LGBTQIA+, programmant le film que vous venez de voir. Pourtant, les liens d'Encado avec l'Observatoire de la Petite Sirène posent des questions. L'Observatoire de la Petite Sirène est un collectif créé en réaction à la diffusion du documentaire Petite Fille de Sébastien Lifshitz, distribué par Encado. Le film est coupable pour le collectif de donner une vision positive des transidentités. Depuis, leur lobbying vise à attaquer systématiquement les droits des enfants trans, parlant d'être mutilation pour les transitions médicales et niant même qu'un enfant trans puisse affirmer son genre. Or, ce collectif est cofondé et co-dirigé par Carolina Eliashev, compagne du fondateur de, Marine Karsmitz, le NK de MK2, et maire de ses dirigeants actuels. Marine Karsmitz a lui-même signé une tribune transphobe dans Le Point, niant la légitimité des identités trans. Si les dirigeants actuels ne seraient été tenus responsables des positions de leurs parents, MK2 ne peut à la fois diffuser des récits trans et garder le silence face à ces positionnements transphobes. Nous demandons une clarification publique des MK2 et de ses co-dirigeants, une réaffirmation de soutien aux droits des personnes trans, une prise de distance avec le collectif l'Observatoire de la Petite Sirène et un engagement concret pour les associations trans. Alors, il y a une tribune qui a été proposée par l'association Now Trans qui va être diffusée bientôt et que nous demandons à relayer et à signer, à co-signer par des associations et d'autres alliés qui souhaiteront se joindre à cette pétition afin qu'un cadeau puisse avoir un positionnement public par rapport à ces questions et ces liens avec l'Observatoire de la Pétitude.
Ton discours, tu vois, j'entends totalement, c'est que MK2 a sorti tous les films trans, à thématique trans, depuis plus de 15 ans, et s'il n'y avait pas MK2, il n'y aurait aucune autre salle à Paris pour les sortir. Donc ça, c'est quelque chose...
On est conscient.
Voilà.
On est conscient, mais on parle de visibilité, mais il faut que la visibilité soit le plus nette possible, et que, bah, effectivement, là, on ne peut pas être dans le paradoxe entre... voilà, on a des espaces, et à la fois, les propriétaires et co-dirigeants de ces espaces font silence face à des positionnements ouvertement transphobes et extrêmement ancrés dans les institutions publiques.
C'est entendu.
Juste peut-être pour compléter un peu l'agenda des revendications, justement en fonction d'une actualité qu'on connaît. La question de la visibilité que tu évoquais, il y a quand même beaucoup de personnes trans et beaucoup de mouvements aux États-Unis qui est ailleurs, hein. Il y a beaucoup aux États-Unis, c'est pas parce que si c'est violent aux États-Unis, c'est la même chose en Argentine, dans plein de pays. La visibilité, bon, qu'est-ce que ça veut dire? C'est les formes de visibilité qui importent. Si c'est l'État, si c'est l'entreprise qui vous fait la visibilité, au bout d'un moment, on a compris. Si c'est la mairie de Paris qui est fière à votre place, bon, vous voyez bien qu'il y a un problème. Pareil pour les politiques d'inclusion. On a bien vu que tous les programmes de diversity aux États-Unis, voilà, ils le font quand ça les arrange, ils arrêtent. Et c'est aussi la limite de la politique des droits. On ne peut plus continuer à être que sur les droits. La visibilité sans véritable présence, c'est pas grand chose. Et dans le film, on voit bien que tu attends. Donc que les droits, ça prenne du temps, on est au courant. Mais les droits sont réversibles. On le voit, c'est tout ce qu'on voit en Argentine, c'est tout ce qu'on voit aux États-Unis et ailleurs. Pardon ?
Au Sénégal.
Alors au Sénégal, c'est une autre problématique. Mais bon, en tout cas, non, je parle de pays justement qui, de manière civilisationnelle, par rapport au Sénégal, vont dire les droits, les droits, les droits. Mais nous aussi, on dit les droits, les droits, les droits. Qu'est-ce qu'on va avoir comme subjectivité qui va nous permettre d'affronter ce qui nous attend ? Parce que la protection de l'entreprise, être gentil, le bien-être, le management de l'université, les fascistes, c'est des coups de botte dans la gueule. Et on a été élevé dans une subjectivité néolibérale où on passe son temps à se plaindre, on est beaucoup dans les nécropolitiques, on demande la protection de la police tout le temps, on demande la sécurité, on a un imaginaire de la vulnérabilité. Je ne suis pas sûre que c'est comme ça qu'on sera les mieux armés, et ça ne représente pas tout l'agenda trans. Il suffit de lire la biographie qu'a fait Tourmaline, les frères Gossett, les sœurs Gossett, qui sont deux personnes trans aux États-Unis, très actives à l'université et dans le cinéma. Et quand elle fait le portrait de Marsha, elle met à distance la question des droits. Les droits, c'est libéral, puis néolibéral. Ça vous donne une subjectivité victimisante et rikiki. Et Hélène, tu le prouves dans le film.
Merci.
Non mais tu vois, il faut autre chose aussi que ce que vous dit le droit pour vous protéger, pour, ou la police pour vous protéger. En plus, on a très bien compris en tant que pute, en tant que transracisée, etc., que non, c'est pas la police qui va protéger, c'est la police qui nous attaque. Donc franchement, je pense que là, il y a, et c'est pas moi qui le décide ou qui le dit, il y a vraiment un agenda contre les droits, moins libéral, moins dans les institutions. Arrêtez tout le monde aux institutions, parce que du jour au lendemain, elles se retournent et elles vous pètent la gueule. Donc là, il va peut-être falloir changer un petit peu l'agenda et les stratégies, et d'autres l'ont fait, on peut le faire.
Au Sénégal, j'aimerais dire que dans la tradition sénégalaise, il y a ce qu'on appelle le gordigen, qui veut dire en wolof homme-femme, qui ont toujours été admis dans la société sénégalaise et qui maintenant vont morfler ce prétexte que les islamistes se sont mis à bouger pour condamner ce qui existait au Sénégal depuis des siècles et des siècles. Ça vous va ?
Oui. Bah oui,
Y a-t-il une question dans le public ?
Un beau film en ce moment qui s'appelle Le mystérieux regard du flamant rose.
Oui.
Ah,
oui.
Il parle aussi du sujet. Que je sais pas s'il est distribué par un cadeau. Je sais pas. Bon, mais je vous encourage quand même à aller le voir. Et il y a une très belle artiste qui malheureusement est passée il y a déjà un mois ou deux. Donc on va attendre un an ou deux pour la voir, qui s'appelle Ezra Furman, qui était homme et qui a fait sa transition, et qui était déjà très très bon comme homme et qui est très très bonne comme femme. Voilà. Donc c'était pas une question, pardon.
Merci.
Et concernant l'histoire et le regard, oui, le film a été programmé dans plusieurs salles à MK2. Y a-t-il une autre question ?
On n'a plus qu'à vous remercier.
Dernière question sur un ton peut-être plus léger. Et encore, enfin, j'en profite aussi pour faire des remerciements à tout le monde, à toute l'équipe, parce que c'est ce qu'on a dit, c'est l'histoire, c'est une, enfin, vous êtes l'histoire, la voix et le corps de nos fiertés. Et du coup, ma petite question qui est peut-être plus légère, c'est vous. Est-ce qu'il y a une œuvre, une chanson qui... Mais qui résonne en vous dans notre combat en commun en quelque sorte.
Ah bon, cette question. C'est pour toi, Hélène.
Moi, il y a un poète que j'aime vraiment beaucoup, c'est Omar Khayyam, un poète iranien du 11e siècle. Il y a un des poèmes. C'est une femme qui sort au petit matin d'une taverne, et il y a un religieux qui l'apostrophe, qui lui dit chaque nuit tu t'enivres, chaque matin tu changes d'amant. Et la femme lui répond: je suis tel que tu le dis, et tu tel que tu le montres. C'est un des poèmes de ce que j'aime le plus.
Je vous remercie beaucoup d'être venu. Je vous remercie encore plus d'avoir apprécié. C'est du baume sur mon cœur. لأن لقاء الأحباب لأن لقاء الأحباب فيه منافع We'll be right back.
certaines, ils viennent brasser leur poison, et vrai poison.
Certaines.